Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et on est de retour avec à nos côtés, bien sûr, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bon, on arrive, ça y est, au terme de cette série de chroniques que vous avez consacrée à l'Europe du sport. Et vous nous avez dit la semaine dernière que nous demanderions s'il existait ou pas un sport européen.
Une question complexe en réalité. Nous nous interrogerons en effet sur le fait de savoir si le sport européen existe en tant que tel, autrement dit, s'il y a des équipes européennes de foot, de rugby, d'escrime. Nous nous demanderons aussi si l'Europe, dont l'identité culturelle est par ailleurs affirmée, présente un modèle sportif qui lui est propre. Et nous terminerons en parlant de la politique de l'Union européenne en matière de sport.
Bon, je ne lâche pas l'affaire, donc réponse à la première question, existe-t-il un sport européen ?
Je vais y répondre, Sébastien.
Sous la torture, mais il y répondra.
Alors, nous avons vu que le sport moderne est une création européenne et que celui-ci tient une place importante dans les sociétés et les économies européennes. 70 millions de pratiquants, 15 millions d'emplois et autour de 3,5 du PIB européen, c'est loin d'être négligeable. L'Europe est en plus dotée de puissantes fédérations, dont l'UEFA pour le football n'est pas la moindre. Les Européens sont aussi friands de compétitions européennes, Coupe d'Europe de foot, Championnat d'Europe d'athlétisme, de natation, etc. Des compétitions continentales dont le cadre dépasse d'ailleurs souvent celui de la stricte géographie. La Turquie et Israël, par exemple, jouent les Coupes d'Europe.
C'est vrai.
Pour autant, si les équipes nationales de rugby anglaise, de football allemande ou de ski autrichienne sont facilement identifiables, il n'y a, je crois, que dans l'univers du golf que l'on puisse parler d'une équipe européenne. Je voudrais toutefois mentionner ici l'initiative d'une association, Europe en Sport, qui depuis 2006 tente, je la cite, d'organiser des manifestations sportives amateurs où l'Europe, défendue par une équipe à ses couleurs, affirmerait sa vitalité et son identité. Le maillot européen deviendrait alors, à travers des manifestations sportives, l'emblème de l'appartenance européenne. Noble intention, en effet, mais encore loin de devenir réalité.
Encore un peu de boulot. Alors d'ici là, vous nous avez parlé aussi d'un modèle sportif européen.
Oui, comme on parle de modèle social européen. La formule a été proposée et développée dans un document de consultation publié par la Commission européenne en 1998 suite à une décision judiciaire survenue lors de l'année 1995, connue sous le nom d'arrêt Postman.
C'est peut-être bon d'en rappeler l'essentiel.
Bien sûr. En 1995, le joueur de football professionnel belge Jean-Marc Bosman, qui souhaite être transféré de son club de Liège vers un club français, conteste devant la Cour de justice de l'Union européenne le règlement de l'UEFA qui stipule alors que les clubs professionnels européens ne peuvent accueillir plus de 3 joueurs ressortissants d'un autre pays européen et que des indemnités de transfert peuvent être exigées par un club pour libérer un joueur dont le contrat a expiré. En donnant raison aux joueurs, au nom de la libre circulation des travailleurs des États membres, la Cour de justice européenne bouleverse l'organisation du sport professionnel et semi-professionnel européen. Il est ressorti de cette affaire que le modèle sportif européen avait un besoin urgent d'être identifié pour être mieux défendu.
Alors, est-ce que l'Europe va le faire du coup ?
Oui, l'Union européenne, qui s'était peu intéressée au sport jusque-là, a posé les fondations d'une politique sportive européenne en 2007. Dans un article du traité de Lisbonne, il est dit que l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative. Ainsi, ce texte confère-t-il une compétence dite d'appui à l'Union européenne ? Elle intervient en complément de l'action menée par les États membres. Le modèle européen, ou la dimension européenne du sport, selon les termes employés, se veut donc un moyen de promouvoir, je cite encore, « l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport » et de protéger l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux. Cela inclut en fait la protection des mineurs, la lutte contre le trucage des matchs, contre le dopage et contre la corruption. On s'éloigne donc d'un modèle, disons, anglo-saxon, fondé essentiellement sur une logique économique, pour concevoir le sport comme un outil d'éducation et d'intégration sociale, même si, depuis l'arrêt Bosman, qui est venu libéraliser le marché des transferts des joueurs de football, football professionnel en tout cas, la dimension économique et financière a pris de l'importance.
Alors, est-ce que l'Union européenne est désormais plus active en matière de politique sportive ?
Oui. Oui, l'Union inscrit son action dans une politique transversale qui prend en compte ses différentes dimensions. Sociétale, avec la promotion de l'égalité des genres et la lutte contre le racisme et la xénophobie. Dimension économique, avec l'accent mis sur le financement durable du sport. La dimension éthique, avec des standards de gouvernance et de transparence. Dimension internationale, avec la coopération comme élément de relations extérieures, notamment en direction des pays du Sud, et enfin une dimension sociale avec l'intégration des migrants sur le territoire de l'Union européenne. Cette action est assumée depuis 2019 par la commissaire à l'innovation, la recherche, l'éducation et à la jeunesse, la Bulgare Maria Gabriel, et elle est financée via le programme Erasmus+, qui lui a consacré 1,8% de son budget pour la période 2014-2020. Les États membres peuvent utiliser des subventions du Fonds social européen, le FSE, ou de développement régional, que l'on connaît, le FEDER, au service de projets d'inclusion sociale par le sport. Et notons aussi que depuis 2014, chaque année, du 23 au 27 septembre, c'était il y a peu de temps, la Semaine européenne du sport encourage les Européens à pratiquer une activité sportive régulière et ils sont aujourd'hui 41% tout de même à le faire.
Ça laisse une petite marge de progression quand même encore.
Voilà, cette série de chroniques sportives est maintenant terminée. Je tiens à remercier Daniel Bernussou, le président de notre Maison de l'Europe, dont un article publié dans la lettre d'information du mois de juin, et j'invite nos auditeurs à retrouver cette lettre d'information sur le site de la Maison de l'Europe, m'a servi pour l'élaboration en particulier de cette dernière chronique.
Cite ses sources, c'est parfait. Bon, nous, on va aller faire quelques étirements, hein, c'est pas tout ça, mais on a beaucoup donné depuis quelques semaines.
Oui.
Et on va se retrouver la semaine prochaine, nouvelle thématique, nouvel univers. On a envie de laisser un peu de mystère ?
Absolument.
Il faudra revenir nous voir la semaine prochaine pour en savoir plus. D'ici là, Jean-Pierre, bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.